Donc, mon objectif pour cet après-midi, c'est de vous faire une présentation, un petit topo des principes du fonctionnement et de la structure du cours, mais tout en utilisant un thème. Et cet thème, c'est les apparences. Parce que si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous posez les questions ou vous avez au moins des incertitudes par rapport à la nature de la vie, ou vous avez une envie d'approfondir vos connaissances, comme si vous ne savez pas tout, comme s'il y a peut-être des choses qui sont occultées ou un petit peu cachées de votre vue, il y a encore des choses à savoir. Et c'est déjà une formidable première démarche, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça, les gens qui veulent vraiment poser des questions et essayer de voir au-delà de ce qui nous semble des fois comme les apparences de cette vie. Je pense que si nous grattons un petit peu, si nous réfléchissons un petit peu, si nous nous observons un petit peu, nous pouvons voir sans trop de difficultés que dans certaines situations, nous n'avons pas toutes les clés en main, nous ne savons pas tout, et certainement des fois, nous avons l'impression qu'il y a une sorte de définition des choses qui nous est donnée, où il y a une façon de regarder des choses qui n'est pas forcément la juste, celle qui est la plus juste. Et que nous cherchons une autre façon de comprendre la réalité telle que elle se présente à nous. Et donc, nous allons voir un petit peu la juxtaposition entre ce qui semble apparence et ce qui semble réalité, et voir comment le cours va essayer de nous expliquer la différence entre les deux, la structure qu'il nous offre pour comprendre pourquoi il y a cette sorte de paradoxe entre les apparences et la réalité, et ce que nous pouvons faire, la méthode que le cours nous propose justement pour remédier ça. D'abord, nous pouvons voir, moi je voudrais dire que ce n'est pas aussi compliqué que ça de voir que parfois la vie nous présente des apparences ou des scènes plutôt qu'une réalité. Et il n'est pas si difficile que ça de voir ces apparences ou ces scènes quand on réfléchit, par exemple, à son expérience de la vie pendant une semaine ou même des fois pendant une journée. J'aime bien peut-être pendant une semaine ou entre une semaine et une autre ou entre un mois et un autre. Parce que souvent, les scènes de nos vies ne changent pas tant que ça d'une semaine ou une autre, mais notre ressenti de notre vie, exactement les mêmes configurations, peut changer beaucoup d'une semaine à une autre, ou deux mois à une autre. Donc, est-ce qu'on peut poser la question à ce moment-là? Bon, j'ai réagi d'une certaine façon, j'avais une bonne semaine. D'accord? La semaine d'après, ma semaine était vraiment moyenne. Et je ne peux pas dire qu'il y avait vraiment des grands événements qui ont changé dans ma vie entre les deux. Qu'est-ce qui a changé? Okay. La vie s'est apparue à moi d'une certaine façon, d'une semaine à une autre. J'ai eu une ressenti différente, complètement différent, d'une semaine à une autre. Ce que j'essaie de dire par ça, tout simplement, c'est que notre perception de la vie n'est pas stable. Nous pouvons voir la même situation de deux façons très différentes, au mois de janvier et plus tard au mois de février ou au mois de mars, ça peut changer beaucoup sans que la situation ait changé particulièrement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de voir si ma perception change autant? Si la façon que la situation se présente à moi, de par sa forme extérieure, n'a pas beaucoup changé, mais la façon que j'ai réagi, la façon qui m'inspire ou qui me décourage, change beaucoup pendant ce temps-là, est-ce que je suis en rapport avec une réalité externe ou est-ce que je suis en rapport avec une apparence? Quelque chose qui est une réalité, d'accord, mais une réalité fixe. Je ne dois pas changer ma perception par rapport à ça. La gravité, on va parler de la gravité. Normalement, la gravité ne change pas du jour au lendemain. Normalement, ma perception de la gravité, aujourd'hui, on peut dire, ça sera exactement pareil dans un mois. Je serai lourd pareil, une pomme ou un œuf que je fais tomber, ça va se casser ou ça va s'abîmer pareil. Ça, c'est fixe, c'est stable, c'est immuable, d'accord, la gravité. Ma situation de travail, on va dire que c'est relativement stable, les mêmes acteurs, les mêmes situations, à peu près. Okay? Mais est-ce que c'est une réalité, est-ce que je suis en rapport avec une réalité fixe comme la gravité, ou est-ce que c'est plutôt une apparence? Et je suis en rapport, non pas avec une réalité, parce que mon rapport avec cette réalité sera fixe, ça ne va jamais changer, comme avec la gravité. Ou est-ce que c'est plutôt des apparences? Mon travail, ma relation avec mon épouse, ma relation avec le gouvernement, avec l'économie, avec l'argent, ma relation avec ma maison, ma relation avec mon corps et ma santé. Est-ce que c'est aussi fixe et dur comme la gravité, des choses réelles, ou est-ce que l'ensemble de ces choses-là ne relèvent pas plutôt des apparences que quelque chose aussi fixe et complètement stable comme la gravité? Nous pouvons poser la question. Nous pouvons dire qu'il y a une possibilité, je vais pas dire que c'est une certitude, mais une possibilité, que absolument tout ce qui me fait réagir dans cette vie, que ce soit mon corps, mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, mes collègues de travail, le maire du village, mon patron, toutes ces choses-là, qui ont une certaine réalité pour moi, c'est sûr. Mais est-ce que je suis en rapport avec une réalité là ou avec une apparence? Parce que ma perception change constamment. Et nous pouvons même dire que si quelque chose était aussi fixe comme la gravité après tout, Marie et Christelle et moi, nous allons avoir la même impression ou le même rapport avec la gravité. C'est quelque chose qui est assez fixe. Je vous donne une pomme à tous les deux, vous le faites tomber, vous savez très bien votre rapport avec la gravité, la pomme va tomber. Nous avons tous le même rapport avec la gravité. Mais si nos relations, si par exemple nous sommes frères et sœurs, et nous avons les mêmes parents, si les parents étaient fixes comme la gravité, nous allons avoir exactement le même rapport. Or, nous sommes sûrs que votre relation avec nos parents ou toi, Marie, ce sera complètement différente. Donc, parents, c'est une réalité ou c'est une apparence? Qu'est-ce qui est en train de bouger et changer nos perceptions à tout va pour que chacun ait une perception différente des choses qui sont soi-disant la réalité? La réalité est que nous avons des parents, effectivement. Mais la façon que mes parents me font réagir, je ne peux pas dire que c'est à cause de la réalité de mes parents, mais une perception que j'ai de mes parents. Et ça change tout le temps. Qui sont mes parents? Vous me demandez aujourd'hui, c'est peut-être différent de la réponse que je vais vous donner dans un mois. Après qu'ils m'ont empêché de faire quelque chose que j'ai eu envie de faire, ou après que voilà, ils m'ont culpabilisé pour quelque chose que je n'ai même pas fait. D'accord? Ou après qu'ils disent qu'ils préfèrent me donner une bonne partie de mon héritage précocement. Donc il y a toutes sortes de choses que mes parents peuvent faire qui vont changer, soi-disant, ma réalité. Donc ce que je veux dire, c'est que cette question des apparences est très très large. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste, ah ben tiens, oui, je voudrais découvrir la vérité derrière les apparences. La réalité, c'est le mot pour le dire, c'est que tout est apparence ou tout est perception. Nous reconnaissons la réalité de quelque chose par notre réaction à cette chose. Si nous n'avons aucune réaction, si l'objet, la chose ne provoque aucune réaction chez moi, ça n'a pas vraiment de réalité pour moi. Ça ne pénètre pas dans mon univers personnel. J'ai dit des choses sont réelles pour moi, sont un objet dans mon univers, quand ça me fait réagir, quand j'ai une réaction. Quelqu'un qui m'insulte, il va certainement entrer plus dans mon univers que quelqu'un qui passe à côté de moi, qui a l'air d'un inconnu, je ne l'ai même pas vu passer. Il s'est passé quelque chose, il s'est donné une certaine réalité. Mais c'est ma perception de la situation qui percute. Apparence ou réalité? qu'est-ce qui est apparence et qu'est-ce qui est réalité. Le cours est venu pour nous expliquer d'où vient l'idée des apparences et qu'est-ce qui pourrait être une idée de réalité quelconque qui est derrière. C'est un sujet que le cours développe en long et en large quand ça parle de la différence entre la forme et le fond. La forme, c'est littéralement comme si vous aviez un cadre avec un tableau à l'intérieur. Et la vraie beauté quand même de ce tableau, c'est le tableau lui-même. Ce n'est pas le cadre. Donc nous pouvons dire qu'il y a un joli tableau sur le mur avec un très joli cadre autour. Le cadre est ce que nous pouvons appeler la forme, et le tableau, c'est la vraie essence. Et nous nous mettons à une certaine distance, parce que si vous mettez trop près, vous êtes en train de décortiquer peut-être la façon qu'il a travaillé les différentes couleurs, la transition entre les couleurs et tout ça. Mais il faut que vous vous mettiez à une certaine distance pour apprécier l'œuvre dans son ensemble. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous vous laissez imprégner de cette œuvre magnifique qui est ce tableau. Vous avez une relation avec le fond de l'artiste, avec le contenu de son esprit. Et à un moment, vous vous fichez complètement du cadre, de la forme. Ça devient un sujet très important pour nous quand nous parlons de relations, d'apparence et de réalité. Parce que les apparences autour de nous, ça peut être nos beaux-parents, notre travail, même les questions d'argent, la somme en banque sur notre relevé bancaire, nous pouvons dire que ça, c'est la forme de notre vie. Mais en dessous, il y a un fond. Il y a un vrai message. Et nous devons nous mettre un ou deux pas en recul pour essayer de voir ce qui est derrière. C'est plus difficile d'apprécier la réalité, le fond, dans notre relation avec nos parents ou avec les questions d'argent, notre relation avec notre patron ou avec le patron du pays. C'est peut-être plus difficile, mais nous pouvons le faire en prenant du recul. C'est ce que le cours nous apprend à faire. Tous ces exercices, justement, dans le livre d'exercices, sont là pour nous aider à prendre du recul, à regarder les choses différemment, à dire, je ne sais pas tout, peut-être je suis en train de regarder que la forme ou que l'apparence. Ça peut être quand mes beaux-parents essayent de m'accuser, d'empêcher leur fils ou leur fille d'avoir une relation plus proche avec eux, ce qui peut arriver dans une relation difficile entre beaux-parents et gendre ou beaux-parents et belles-filles. Il y a une apparence du conflit. Il y a un instant de conflit. Ça, c'est la forme. Donc, on essaie de voir ce qui est peu derrière. Okay. Donc maintenant, dans la première partie de cette discussion, c'était pour commencer à voir que l'idée des apparences de la vie sont très liées avec la perception, avec notre perception. Notre perception qui change presque constamment. Nous ne sommes pas les mêmes personnes avec les mêmes aperçus que nous étions il y a 6 mois ou même il y a un an. Certainement, nous ne sommes pas la même personne avec les mêmes perceptions, les mêmes ressentis que ceux que nous étions il y a 10 ans ou 20 ans. Nous avons un ressenti différent qui vient de notre perception de la vie autour de nous. Et cette perception qui change, qui n'est pas stable. Donc nous nous posons la première question pour savoir qu'est-ce qui est en train de décider ou qu'est-ce qui est en train de déterminer cette perception? Qu'est-ce qui est derrière, qui alimente cette perception changeante autour de nous? L'un des premiers exercices du cours, du livre d'exercices, c'est justement de nous faire prendre du recul et nous dire cette énoncée. C'est la leçon numéro 5. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Cette leçon va très 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 loin. Parce que nous pouvons aussi remplacer ce mot contrarié avec beaucoup d'autres mots. Je ne suis jamais triste pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais agacé et frustré pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais apeuré pour la raison à laquelle je pense. Je ne me sens jamais coupable pour la raison à laquelle je pense. Donc, il nous donne pas la réponse tout de suite, mais il nous demande déjà simplement de se poser cet énoncé, de se répéter cet énoncé pour ouvrir notre esprit à une autre possibilité. Que tant que je reste avec mes convictions, que je sais pourquoi je suis contrarié, arrête de me dire « je ne sais pas pourquoi je suis contrarié ». D'accord ? Il veut que je me pose cette question, que je me propose la possibilité que non, tu ne sais pas exactement pourquoi tu es contrarié. Tu es contrarié, mais parce que tu es en train de regarder les apparences de la situation, tu es en relation avec la forme. Tu n'es pas allé au fond de la situation pour voir ce qui se passe sur un arrière-plan. Il vient après beaucoup d'informations pour remplir ce cadre, ce nouveau cadre de référence, nouvelle explication qu'il va nous donner pour comprendre pourquoi nous sommes vraiment contrariés. Mais je pense peut-être déjà dans un premier temps, nous pouvons nous dire qu'effectivement, des fois, j'ai l'impression de savoir pourquoi je suis contrarié. Mais ma contrariété peut changer au fur et à mesure, même dans la même journée. Je suis agacé par une personne à 11h, déjà midi s'est passé. Il ne s'est pas excusé. Mais pourtant, je ne sais pas, je suis moins agacé. Ou vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes en discussion avec quelqu'un, soudain, pour quasiment X raisons, sans que l'autre personne vous provoque, soudain, vous êtes très irrité avec l'autre personne. Il y a une sorte de vague d'irritation ou quelque chose, ça peut être même une manie avec la bouche ou je ne sais pas quoi. Mais il y a un petit truc qui juste vous ressentez venir. Et peut-être vous avez même du mal à vous empêcher de laisser partir un petit mot vif ou un petit mot de contrariété sans que vous puissiez expliquer vraiment pourquoi soudain vous avez changé d'avis. Changer d'humour, d'humeur. Non, voilà, c'est pas très humoristique du tout. Vous pouvez effectivement vous poser la question à ce moment-là, mais pourquoi je suis réellement contrarié dans cette situation? Qu'est-ce qui m'a fait vraiment chavirer? Qu'est-ce qui m'a basculé? Et nous pouvons même dire à l'intérieur, mais c'est qui le chef ici? C'est qui est en train de décider? Mais punaise, j'ai pas vu venir vraiment, je sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que ça nous arrive à nous tous, de ne pas savoir exactement d'où vient ces montées d'émotions, ou de colère, ou d'irritation, ou même des montées de peur, ou de chagrin, de tristesse. Des fois, nous pouvons chercher, ah bah oui, il a fait une grimace avec la bouche qui m'a fait penser à mon premier instituteur ou je ne sais pas qui m'a frappé. On peut chercher loin comme ça. Mais c'est jamais vraiment des bonnes explications parce que pourquoi le souvenir de cette personne n'est pas venu à notre moment? Pourquoi à ce moment-là, vous étiez en train d'avoir une bonne discussion et puis soudain, une vague d'irritation? Le cours nous propose une idée. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a deux esprits différents, et avec ces deux esprits différents, il y a ce qu'on appelle un décideur. C'est le petit filou, le petit malin, en fait, qui est derrière tout ça, dans un sens. Il y a un décideur, il y a une partie de notre esprit qui est simplement en train d'interpréter et de choisir son interprétation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et selon la philosophie du cours, il a deux options parmi lesquelles il peut choisir. Donc, je vais vous parler deux minutes justement de la structure de l'esprit avec laquelle le cours utilise. Et c'est parce que le cours nous présente l'idée que notre pensée n'est pas aléatoire. Ce que nous pouvons facilement penser. Des fois, quand on se regarde à la fin de la journée, on voit vraiment la panoplie, panoplie de pensées qu'on a eues dans la journée. Que si on prend vraiment du recul, on essaie de noter toutes les différentes pensées qu'on a eues dans la journée, nous allons voir vraiment une sorte de désorganisation assez remarquable. Et le coup est là pour nous dire que ce n'est pas si désorganisé que ça. Il y a une certaine organisation derrière notre pensée. Ils disent, par contre, il y a deux formes d'organisation de notre pensée. Il n'y a pas simplement une forme. Il y a même deux systèmes de pensée qui nous habitent, dont nous disposons dans un sens. Et chaque système de pensée donne sa propre organisation. Et selon le système de pensée auquel nous adhérons, nous allons avoir un certain genre ou panoplie de perception, et la vie va apparaître à nos yeux d'une certaine façon. On choisit l'autre système de pensée avec une autre organisation des pensées, avec un autre genre de perception, et la vie va nous donner d'autres apparences. La vie va nous paraître complètement différente. Donc, l'une des grandes richesses du cours, c'est cette structure de l'esprit entre ces deux esprits, ce que le cours appelle l'esprit faux d'un côté et l'esprit juste de l'autre, avec un décideur au milieu qui est en train de décider à laquelle il va adhérer à chaque instant de la journée. C'est déjà une grande richesse qui nous laisse, qui nous donne, qui nous aide à mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit. Maintenant, pour élaborer un petit peu plus sur ça, brièvement, l'esprit faux est simplement faux parce qu'il est basé sur une fausse idée au départ. Toutes ces perceptions par la suite seront fausses. Et c'est ce qui nous donne toute cette panoplie d'émotions très réactives par rapport à l'extérieur, que nous contrôlons tant bien que mal, et qu'à la fin de la journée ou à la fin de notre altercation, nous pouvons dire « j'ai eu très peu de maîtrise en fait sur ce que j'ai ressenti et sur ma perception de l'autre personne ». Ma femme ou mon conjoint ou la personne bien aimée de ma vie, que ce matin j'ai beaucoup aimé, cet après-midi, qu'est-ce qui m'a agacé? D'accord? Ça me chagrine quelque part parce que je veux l'aimer. Je dispose de beaucoup moins de contrôle que ce que je pense par rapport à mon ressenti pour cette personne. Nous ne parlons pas du chauffeur qui vient de me couper la route et du président. D'accord? Je dispose de beaucoup moins de contrôle par rapport à ces gens-là que je souhaiterais avoir. Donc, on veut approfondir nos connaissances du fonctionnement de l'esprit. Comment je pourrais avoir une ressenti plus bienveillant pour les personnes qui sont les gens que j'estime que j'aime, pour les gens que j'aime dans ma vie? Parce que je vois que oui, des fois, j'arrive à exprimer l'amour auprès de ces gens, et des fois, j'arrive plus difficilement. Voilà, l'amour vient plus difficilement. Ça me chagrine. Je voudrais pouvoir les aimer, démontrer de l'amour envers ces gens-là plus systématiquement, d'une façon plus stable. Comment je peux faire ça? Et après, nous allons parler du chauffard et du président. Peut-être j'arriverai même un jour à avoir un ressenti avec moins de jugement pour ces personnes aussi, pour les inclure. Donc, ce que le cours appelle mon cercle. Le cercle, c'est un peu compliqué, le circle of atonement. Le cercle d'expiation. Mais voilà, c'est à savoir que l'expiation, dans le langage du cours, n'est nul autre pour la reconnaissance du fait que nous n'avons jamais quitté le foyer, l'amour. C'est tout simplement ça. C'est l'inverse de l'expiation ordinaire. L'expiation qui veut insister sur le fait que nous avons fait quelque chose de tellement horrible au départ que maintenant il faut quasiment passer toute notre vie à nous racheter. Le cours dit exactement l'inverse. Il ne s'est rien passé au début. Il n'y a rien à racheter. Il n'y a rien à expier. C'est un principe extrêmement important que le christianisme a très mal compris autant que d'autres religions. Au départ, il n'y a pas une faute ou une erreur fondamentale à l'origine de l'existence. Donc, il n'y a rien à remédier dans ce sens-là. Il n'y a rien à guérir. Il y a simplement une reconnaissance de la guérison qui est déjà présente. Donc ce qui revient à un aspect important du cours, c'est qu'il n'y a rien à faire dans ce cours. Il n'y a qu'à défaire. On n'a qu'à défaire les obstacles devant notre vision de la parfaite réalité qui est déjà présente. Parce que cette parfaite réalité est toujours, a été là, est toujours là. Nous avons obstrué notre vision, nous ne le voyons plus, pour une certaine raison. Et maintenant, nous n'allons qu'à défaire les obstacles devant nos yeux. Et cette réalité se révélera à nous toute seule. Donc, richesse de secours dans cette structure de l'esprit entre ces différentes parties et cette décideur qui va nous aider finalement à prendre peut-être un petit peu plus de maîtrise et un peu de contrôle. Parce que si je sais pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je manque de contrôle sur cette situation-là, à moins, avec cette meilleure connaissance de l'instabilité de ma perception de la situation, de l'instabilité de ma perception de mon époux, qui fait en sorte que le matin je suis un cœur, un grand amour, et le soir je suis le terreau de sa vie. Si je peux mieux comprendre d'où ça vient, ce n'est pas parce que je suis vraiment méchant, c'est parce qu'il se passe autre chose en moi que je ne voyais pas, je vais regagner le contrôle et je vais pouvoir rester plus dans un esprit d'amour et de non-jugement et vraiment étendre ce qui est le mieux en moi au lieu de juste me contenter à dire « bah oui, j'ai pété un câble, excuse-moi, je n'ai pas pu faire mieux ». On va voir ça. Dans 1200 pages, il arrive à dire des choses. Et donc, je vais essayer de synthétiser un petit peu pour vous laisser avec quelques clés. Juste pour essayer de suivre un petit peu une trame que j'avais fait pour cet après-midi. Donc, nous apprenons par ce livre de cette structure de l'esprit qu'il y a un système de pensée. Notre pensée n'est pas désorganisée. Il y a une organisation derrière. Il y a toute une étude de l'organisation de cette pensée et ce qui est la dynamique de cette pensée. Parce qu'il y a des règles pour chaque système de pensée. Il y a une pensée au départ, il y a un principe au départ de chaque côté, le côté faux ou le côté juste. Il y a un principe au départ qui donne naissance à tout, qui met en marche toute une dynamique de pensée par la suite. Les dynamiques de pensée qui sont complètement inverses d'un côté à l'autre. Dans l'esprit faux, nous commençons avec l'idée, non, je vais me devancer un petit peu là. Pour l'organisation, je veux faire des choses aussi bien organisées que je peux. Je préfère revenir juste à vous présenter un autre aspect de cette structure. Et dans la dynamique, je vais parler de cette dynamique, va avoir beaucoup plus de sens si je vous explique le schéma métaphysique sur lequel le cours est basé. Je vous ai dit deux parties de l'esprit, un décideur et deux systèmes de pensée. D'où vient tout ça? Là maintenant, je vais vous parler de l'origine de ces deux systèmes de pensée. Et à partir de cette origine, ça sera facile de comprendre la dynamique de chaque système de pensée. Alors, le cours nous dit aussi bien que beaucoup d'autres spiritualités, que ce monde n'est pas notre origine. Nous avons une origine, nous pouvons dire spirituelle ou divine. Nous venons d'ailleurs et nous nous incarnons, entre guillemets, dans ces corps ici, juste pour avoir une sorte d'expérience. Selon différentes traditions et spiritualités, c'est pour avoir tel ou tel genre d'expérience. Dans la philosophie du cours, nous venons ici uniquement pour apprendre sur notre réalité et pour accueillir le souvenir de notre réalité au fond de nous, pour nous souvenir que ici, ce n'est pas notre réalité, ce n'est pas notre vraie vie, nous avons une autre vie qui est notre vie réelle. Nous sommes déjà nombreux à avoir eu ce genre de pensée déjà que peut-être je ne sais pas tout et je suis convaincu que chaque fois que je regarde dans la classe, je ne suis pas en train de voir la totalité de ce que je suis. Je suis sûr qu'il y a aussi autre chose là derrière cette façade ou ce visage que je vois dans la glace. Et votre intuition vous guide bien. Effectivement, nous sommes beaucoup plus que juste le simple visage que vous voyez dans la glace le matin. Et le cours nous apprend beaucoup sur la nature de cette réalité. cette réalité à l'origine est un état d'unité, un état d'un. C'est un principe d'une unité de vie extraordinaire, dans le sens que absolument tout est inclus dedans. Nous ne parlons pas des choses physiques, mais des choses dans l'abstraction de l'esprit. Les choses invisibles et qui existent en dehors du temps et de l'espace. Donc, ça existe dans une autre dimension de la réalité. Nous pouvons essayer d'imaginer ce qui existait, par exemple, avant que le Big Bang a survenu. Nous essayons de voir qu'est-ce qui était avant la naissance de l'univers physique et nous pouvons avoir du mal à imaginer parce qu'il n'y avait nulle part pour un endroit d'exister avant la naissance de l'univers physique. D'accord ? Pourtant, l'univers physique, entre guillemets, a dû survenir quelque part. Mais ce quelque part n'existait pas un endroit physique, un endroit spécifique ou précis. Il n'y avait qu'une espèce d'abstraction parfaite. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Notre esprit, petit esprit, n'était même pas conçu pour l'imaginer. C'était conçu justement pour connaître que le limité et le fini, pas pour connaître et comprendre l'infini. Donc, nous commençons avec cette idée d'une unité. Et cette unité est parfaite et toute inclusive. Il n'y a rien en dehors de cette unité parfaite. Il n'y a rien qui n'est pas inclus dedans. Tout fait partie de cette parfaite unité. Puisqu'il n'y a pas de sujet et objet, il n'y a aucune opposition. Pour avoir opposition, il faut avoir deux choses séparées. Dans une unité parfaite, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau, il n'y a qu'une simple complétude parfaite. Encore, le cours en miracle n'est pas la seule spiritualité à partager cette vision des choses. Nous trouvons les mêmes choses aussi chez les hindous, particulièrement dans l'Advaita, dans la non-dualité, et aussi chez les bouddhistes, dans une certaine mesure. Aussi, je crois, peut-être dans le taoïsme, je ne suis pas très familier avec ça. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de cette perfection, soi-disant c'est passé. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de cette perfection pour que aujourd'hui nous avons un monde de dualité, d'objets, de sujets, de plein de différentes choses, ce que les hindous appellent le monde de la multiplicité ou de la fragmentation. Dans la mythologie du cours, nous pouvons parler comme ça, la mythologie du cours pour essayer d'expliquer d'où vient ce monde de dualité qui ne peut pas exister à l'intérieur d'une unité parfaite, nous disons qu'une partie de l'unité parfaite, ce qui est déjà un paradoxe parce qu'il n'y a pas de partie d'une unité parfaite, s'était posé une question un beau jour, s'est dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cette unité parfaite ? D'accord. Nous parlons maintenant des choses assez inimaginables. Et c'est des paradoxes. Que le cours a sa façon d'expliquer ces paradoxes, mais qui n'est pas intellectuellement très satisfaisant pour notre intellect, parce que notre intellect est né dans la dualité et veut comprendre les choses dans la dualité. Donc nous ne pouvons pas comprendre comment un monde de dualité peut sembler être venu à partir d'une unité où une telle dualité n'est pas possible. Nous ne pouvons pas comprendre ça à partir de notre intellect, mais par contre, une partie de nous peut le comprendre sur le niveau de l'expérience. Et c'est le but de ce cours, de nous emmener vers notre esprit qui est capable de saisir cette réalité de cette paradoxe et de savoir à la fin comment cette dualité n'a jamais pu vraiment exister en réel. D'accord ? Donc c'est juste pour dire que si cette idée de la naissance d'un monde de dualité à partir d'une unité parfaite, ça vous frustre, sachez que l'intellect ne peut pas le saisir parce que c'est né de la dualité, mais une partie de notre esprit peut avoir l'expérience de cette vérité. Donc c'est juste une question de temps. que nous, et nous pouvons tous avoir cette expérience, sauf nous avons peur. C'est la seule chose qui nous empêche d'avoir l'expérience, la pleine expérience de cette parfaite unité qui existe toujours, dans laquelle la dualité semble exister, mais n'a pas pu exister pour du réel. Nous avons, c'est uniquement notre peur maintenant, mais je commence à me devancer un petit peu, et nous avons cette peur parce que nous sommes des nous avons l'impression d'être des créatures de la dualité. Or, faire cet exercice vers l'unité va nous montrer que la dualité n'a jamais eu lieu. Donc, dans un sens, nous essayons de reconnaître notre propre non-existence. Alors, vous voyez, il peut y avoir quelques barrages de peur entre-temps. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, comme les grands maîtres sages, ils ont pu faire. Ils ont eu la volonté, ils ont eu l'envie de savoir la vérité. Et malheureusement, la vérité va nous apprendre des choses sur notre propre sujet qu'une partie de nous n'a certainement pas envie de savoir pour l'instant. Donc, nous faisons ce chemin très, très, très doucement et lentement. Comme un collègue à Kennedy, il dit, nous avançons uniquement à la vitesse que notre peur va nous permettre. Voilà. Et nous arrivons à maîtriser de plus en plus notre peur avec de plus en plus de petites expériences d'amour. C'est des expériences d'amour qui vont nous aider à savoir que nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la peur. Il n'y a rien à craindre à la fin. Voilà. L'amour nous dit, vous n'avez rien à craindre. On ne fait pas confiance. Voilà, tout simplement. Et l'amour a beau à nous dire, il n'y a rien à craindre, viens vers moi. Mais on n'a pas tout à fait confiance. Donc, on reste avec nos positions, nos repères et tout ça. Bah oui, mais moi je veux que l'amour vienne vers moi. Moi, à l'hiver, l'amour, je ne suis pas encore sûr. Donc, on fait selon notre rythme. Voilà, le rythme que notre peur nous autorise, nous permet. Donc, il semble qu'à l'intérieur de cette unité parfaite, qu'une partie de cette unité parfaite, encore le grand paradoxe, s'est posé cette question. Non, mais cette unité, elle est très ennuyeuse. Je voudrais savoir autre chose et connaître autre chose. Et donc, comme s'il y a eu une grande explosion à ce moment-là, le Big Bang est né. À partir de cette volonté, de cette idée, de ce désir de connaître autre chose. Pour une simple raison. L'idée de vouloir connaître autre chose que l'unité parfaite a donné naissance à l'idée d'un pouvoir sur l'unité parfaite ou sur ce que nous ressentons comme notre source. Dans le langage du cours, c'est Dieu, mais nous pouvons remplacer ça avec source ou origine aussi bien. Maintenant, doté de notre pouvoir de poser cette question, de notre idée de sujet et objet, nous avons l'impression donc d'avoir un certain pouvoir sur la réalité de l'unité. Mais tout de suite, nous avons compris que nous sommes auto-créés aux dépens de l'unité parfaite. Dans un sens, nous avons eu l'impression d'avoir un pouvoir sur la source, sur Dieu, encore plus grand que lui. Nous avons pu faire atteinte, nous avons pu atteindre l'intégrité de l'unité. Parce que l'unité, pour être unie, il ne peut pas avoir un moi et un lui, il n'y a que nous. Et moi, je viens de me définir en tant que moi-même. Donc, quelque part, j'ai amoindri l'unité parfaite. C'est ce qui est mon impression. Mais ce n'est pas une simple impression. Ce n'est pas juste un petit sentiment, ah tiens, j'ai ce pouvoir. Non, c'est l'impression d'avoir fait une énorme boulette, d'avoir fait une sorte de crime cosmique d'une proportion absolument incroyable, d'où viennent toutes ces histoires de péché originel, d'une idée de sortie de la perfection par une sorte de péché. C'est dans notre ADN. Et donc, dans plusieurs religions et spiritualités, il y a une sorte d'idée d'un péché originel ou d'une faute, une faute d'origine. Et ce que nous considérons comme notre faute d'origine, c'est l'idée que nous avons pu nous définir en dehors de l'unité parfaite et pour l'amoindrir, pour le détruire, pour le réduire. Donc, nous nous sommes dotés maintenant avec une idée de séparation, une identité séparée et individualisée, aux dépens d'un sentiment d'inclusion et d'amour. Nous avons troqué l'amour et l'unité et la perfection pour l'individualité, la fragmentation, la culpabilité et la peur. Mais nous pensions que la culpabilité, et qui dit culpabilité dit qu'il y a le risque d'une punition ou de rétribution. Parce que si j'accepte, si je pense que j'ai fait quelque chose de terrible, je vais automatiquement avoir l'impression qu'il va avoir une contrepartie. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est le résultat psychologique de la culpabilité, c'est la peur. On a peur parce qu'on pense mériter un châtiment. Donc, je suis rempli de ce sentiment d'un futur châtiment de peur, donc de peur, de culpabilité, l'idée de péché, d'avoir fait un crime, mais je pense que ça vaut la peine et que ça valait la peine. Parce que je suis moi-même, je suis sorti du cadre de l'unité parfaite. J'ai créé après tout ce monde ici. Nous sommes tous les fabricants de ce monde, les faiseurs de ce monde ici, de cet univers. Nous ne disons pas dans nos cours que ce monde est l'issue de Dieu, mais est l'issue de l'esprit confus de l'enfant de Dieu, si vous voulez, ou de l'extension, d'une extension de la source qui s'est confondue, qui est maintenant confus, et donc le Big Bang fait partie de cette stratégie de cette partie de l'unité pour échapper l'ennui de l'unité d'un côté et échapper à la rétribution cosmique qui pense le poursuit dans cette l'univers de son esprit maintenant en guerre. Tout ça, c'est la mythologie que le cours nous donne pour essayer de comprendre la base de l'esprit humain, les fondements de l'esprit humain ou la psychologie de l'esprit humain. Parce que à la base de ce système de pensée de ce que nous appelons l'esprit faux est cette idée de séparation. Le système de pensée de l'ego, ce que nous appelons aussi le système de pensée de l'ego, ce qui est l'esprit faux, est basé sur l'idée que nous avons pu réellement faire atteinte à l'unité, détruire l'unité, prendre la place de l'unité parfaite, détruire Dieu. Maintenant, nous sommes fautifs à un niveau extrêmement profond, avec la conséquence que nous avons des bonnes raisons d'avoir peur, mais une peur, une sorte de terreur qui nous habite au plus profond de nous. Ça, c'est le point de départ de ce système de pensée, et toutes les différentes pensées, les déclinaisons de pensée à partir dans ce système de pensée-là seront attribuées, vont porter les attributs de cette pensée d'origine de peur. Donc, vous avez la déclinaison de toutes les peurs, des sentiments négatifs, des émotions et des expériences négatives dans ce monde, telles que la dépression, la déprime, le chagrin, la nostalgie, la peur, l'anxiété, la frustration, tout ce que vous voulez qui est négatif, se trouve de ce côté-là, dans l'esprit faux. C'est toujours basé dans l'idée que je suis un être humain, c'est ma réalité, je ne suis plus joint avec ma source ne m'aime plus à cause de ce que je pense avoir fait, ce que je n'ai pas fait. J'ai des bonnes raisons pour m'accrocher à ça parce que c'est ma réalité maintenant. D'accord, je vais essayer de ne pas trop y penser, je vais essayer de le déguiser, je vais essayer de penser à autre chose, et je vais surtout essayer de me divertir pour ne pas trop penser à ça, et je vais essayer aussi, dans ce système de pensée, de me satisfaire en tant qu'être humain imparfait. En tant qu'un être humain coupé de ma source, je ne connais plus la plénitude au fond de mon esprit, je connais au contraire le manque. Alors le manque maintenant, je vais essayer de le remplir tous les matins, je me lève et j'ai faim pas simplement pour la nourriture, j'ai faim aussi pour l'affection. J'ai besoin d'affection, j'ai besoin que les gens me disent, me font signe qu'ils m'aiment, que je suis quelqu'un de bien, parce qu'au fond de moi, je ne pense pas que je suis vraiment quelqu'un de bien. Donc, je vais essayer de m'entourer par les gens qui ont l'impression de m'apprécier. Je les aime, surtout parce qu'ils m'apprécient. Ils me donnent les signaux d'appréciation et de reconnaissance. Et je ne suis pas très fan des gens qui me donnent qui me jugent et qui me donnent les signaux opposés. Donc je vais essayer de m'entourer par ces relations, ce que le cours appelle les relations particulières, des gens qui m'aiment, et je vais essayer même de les appâter, de les attraper pour m'entourer des gens qui m'aiment. De l'autre côté, je vais essayer d'écarter des gens que je n'aime pas. Parce que les gens que je n'aime pas, il y en a un paquet. Parce qu'une fois que je suis rempli de ce sentiment de mal-être profond, je vais le projeter à l'extérieur de moi. Je ne vais pas pouvoir le garder pour moi. C'est trop fort. Le sentiment qu'il y a un vaste problème dans mon univers personnel, je ne peux pas le garder pour moi. Une fois que j'ai décidé, je suis séparé de Dieu, de la source, de l'amour, je me sens complètement coupé du bien fondamental. Et je ne peux pas le garder pour moi, je le partage. Je partage ce mal-être avec tout le monde, particulièrement avec ceux que je n'aime pas, mes ennemis. D'accord? Les gens qui m'enquiquinent, les gens au travail qui ne font pas ce que je leur demande de faire, les gens qui essaient de prendre le crédit peut-être pour mon travail, la reconnaissance pour mon travail. J'ai des multitudes de raisons de juger les autres. Et figurez-vous, l'origine de ces jugements contre les autres, c'est toujours qu'au fond de moi, j'ai besoin de juger les autres. Parce que, au fond de moi, je me sens jugé. J'ai besoin de trouver d'autres gens encore plus fautifs que moi. Je me sens déjà assez fautif comme ça. Mais c'est pas possible. Il faut que, au moins, je sens que je suis mieux que les autres. Donc, si vous connaissez des gens qui ont besoin de juger les autres, ça vient de ça. Ça vient de ce besoin. Ils se sentent déjà tellement fautifs à l'intérieur. Ces gens-là ne sont certainement pas remplis de l'amour de Dieu. C'est pas possible. Parce que sinon, on n'a certainement pas besoin de juger les autres. On ressent tous une sorte d'incomplétude à l'intérieur qui nous nargue. On n'a pas l'impression d'être absolument dans une perfection complète. Et inconsciemment, on va avoir besoin de voir d'autres gens pires que nous. Comme ça, on a l'impression d'être un petit peu mieux qu'eux, aux yeux de Dieu. Donc, si jamais Dieu arrivait sur le seuil de notre porte demain, il frappait à notre porte, au moins on pouvait lui dire « Ouais, je suis pas parfait, mais celui-là à côté, il est encore moins parfait. » Ok ? C'est quand même toujours un petit peu dans cette idée-là que nous jugeons les autres. Oui, je suis pas parfait, mais par rapport à lui, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que nous adorons les méchants dans la vie. Nous adorons les mettre sur la télé le soir, regarder qui regarde la première page des infos, et après la première page, vous regardez la dernière page. D'accord. On adore trouver les grands méchants, les grands bandits, parce qu'on a l'impression après, wow, je suis blanc, plus blanc que blanc, selon Coluche. Ça, c'est le sort de dynamique qui déroule dans le système de pensée de l'ego, le système de pensée basé sur la séparation, basé sur la fragmentation. C'est parce que le point de départ n'est pas joyeux. D'accord ? Le point de départ, c'est une séparation. Une impression du plus grand désarroi, qui est une impression d'ailleurs. C'est ce qui nous fait basculer de l'autre côté ici pour regarder ce qui est le contenu et le fond de l'esprit juste. Donc, ce qui est le point de départ pour l'esprit juste est exactement l'inverse. Ça revient à ce paradoxe dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut avoir l'impression d'être ces fragments. On peut avoir l'impression de vivre dans un monde de dualité sans que ça soit la réalité. C'est le point de départ de l'esprit juste, c'est qu'il ne s'est rien passé. Le ciel, Dieu, l'unité parfaite, l'abstraction complète, l'amour, tout est absolument parfaitement intact. Parfaitement intact. Nous n'avons absolument rien fait du tout. Si nous avons fait quelque chose, tout ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes endormis. Canute nous insiste que nous nous sommes, c'est comme si nous étions tous dans un énorme foyer au ciel, dans des grands fauteuils, et certains d'entre nous se sont endormis sur place dans les fauteuils. Et dans leur sommeil, nous sommes en train de rêver une rêve de séparation. Comme si nous n'étions plus dans nos grands fauteuils au ciel, et nous avons pu fabriquer une sorte d'enfer vivant ici sur Terre, ou d'habiter ces êtres fragiles et vulnérables avec une durée limitée, une durée de consommation limitée. Mais la réalité, c'est que nous sommes toujours au ciel dans nos grands fauteuils, juste que nous sommes endormis. D'accord ? Voilà, pensez à ça. Si jamais vous avez une peur, la prochaine fois vous avez une vraie peur de crainte ou de peur, essayez de penser à ça. Nous n'avons jamais quitté ce magnifique endroit qui est notre foyer, notre maison, et nous sommes toujours dans nos grands fauteuils. Et il y a même, on peut même imaginer qu'il y a des anges qui passent, qui nous mettent des couvertures chaudes sur nous, parce qu'ils voient qu'on gigote un petit peu dans notre sommeil, ils savent qu'on est en train de faire des cauchemars, donc ils essaient de nous reconforter aussi bien qu'ils peuvent. Mais ils ne peuvent pas nous réveiller. Nous devons le faire pour nous-mêmes. Ils ne peuvent pas nous réveiller. Ce n'est pas dans leur capacité. Mais pourquoi pas? Vas-y, réveille-moi. Bouscule-moi, je m'en fous. Bon, tout simplement, c'est ce qu'ils ont choisi de voir.
Avant de
s'incarner cette fois, c'est ce qu'ils avaient envie de voir. Oui, figurez-vous, c'est très très difficile à imaginer que les gens ils peuvent avoir envie de voir ça, mais il ne faut pas sous-estimer le besoin de cet esprit faux, de l'individualité, de créer et de voir les situations des difficultés extrêmes. En fait, juste dans un sens oui, mais la nuance est importante. Ce n'est pas l'esprit faux qui décide, ce n'est pas l'esprit juste qui décide, c'est le décideur qui décide. L'esprit faux, c'est simplement un système de pensée. Ça représente une dynamique. C'est le décideur, c'est ce que nous sommes tous. C'est nous sommes un point de décision. Nous allons décider entre l'idée que la séparation est réelle, donc avec toutes ses conséquences, et ça, les conséquences, c'est toute cette dynamique de culpabilité, de peur, de détresse, de destruction, où nous allons décider que la séparation n'est pas réelle, je suis toujours entièrement joint et uni avec ma source, et ça donne naissance à toute une autre dynamique, beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille.
En tant qu'esprit faux, j'ai décidé ça. Là, je suis en train de vivre le film que j'avais décidé. Est-ce que je peux changer les trucs de mon film? Maintenant, je commence à tout qui peut comprendre les trucs.
Oui.
Est-ce que le film va se dérouler tel qu'il est prévu? C'est pas possible. Ou est-ce que du fait que je commence à percevoir un petit peu des trucs, est-ce que ça va changer?
D'accord.
Est-ce que je vais pouvoir changer le scénario ou...
Il y a deux aspects. Il y a deux aspects à la réponse. Et les deux sont très importants. Il ne faut pas les séparer. Je sais que vous allez avoir la tendance d'écouter l'un des aspects de la réponse et pas l'autre. L'un des aspects de la réponse, c'est que nous pouvons changer de scénario. Parce que le scénario, typiquement un scénario de détresse, vient de notre culpabilité qui inconsciente. Hein. C'est une culpabilité inconsciente. Et quand on parle de culpabilité, on parle de... ce n'est pas juste « Ah oui, j'ai pas appelé ma mère ce week-end ». C'est tout ce qui est l'ensemble des émotions et des sentiments négatifs dans l'être humain. C'est l'ensemble de tout ça. C'est le point de départ, c'est qu'il y a un problème quelque part, un problème grave. À partir de cette idée de problème grave, il y a la déclinaison de toutes les autres pensées négatives, de haine, tristesse, colère, tout ça. Donc, si le problème, la situation difficile est soutenue et vient de ma culpabilité, qui est un besoin de voir que je suis puni, j'ai besoin de voir que la vie me punisse parce que je crois que je suis fautif. Et fur et à mesure, effectivement, si je travaille sur ma culpabilité, je sais que je n'ai aucune raison de croire ou de penser que ma vie sera si dure, effectivement, la situation peut changer, la situation peut débloquer, absolument. La deuxième partie de la réponse, ce qui est le plus important, c'est que chercher une amélioration dans sa situation veut dire que, par définition, je me définis toujours comme un être fragmenté qui a besoin de meilleures situations pour être bien. Or, le vrai travail sur la culpabilité est que je suis un être spirituel. Le vrai réconfort que je cherche est dans l'esprit, ensemble avec ma source, et de savoir que je suis aimé n'importe ce que je pense, n'importe ce que je pense avoir fait, je suis aimé et parfaitement aimable. Ça, c'est la solution dans l'esprit. Donc, c'est un va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, que je veux améliorer ma situation, donc je vais faire ce travail à l'intérieur. Pour que l'extérieur change, parce que franchement, le travail à l'intérieur, ça va pour un peu, mais si la situation extérieure peut s'améliorer, je serai aussi encore plus content. On veut tous que la situation améliore, situation extérieure s'améliore. Mais si nous focalisons constamment sur une amélioration de ça, ça c'est au dépend du travail à l'intérieur. C'est pour ça que il y a un vrai équilibre entre les deux. Il n'y a rien de mal. La vraie preuve d'avoir fait le travail à l'intérieur, c'est plus d'apaisement à l'intérieur. Voilà. Et quand nous accédons à ce sentiment d'apaisement, de savoir que n'importe ce que cette vie se présente à moi comme saine, je suis parfaitement aimé et aimable, je n'ai rien fait de mal, je vais ressentir une sorte de sécurité, réconfort, qui va m'aider, qui sera le vrai soutien pour traiter avec cette situation difficile, n'importe la situation. Que ce soit une situation de maladie ou de situation difficile financière.
En fait, le miracle en lui-même n'a aucune importance finalement.
C'est ça.
C'est ce qu'on ressent.
Ce que j'ai ignoré vous dire, c'est vrai que l'introduction était peut-être un peu brève, c'était vous donner une définition du miracle. Le miracle n'est rien d'extérieur, en fait, dans le langage du cours. Et c'est entièrement à l'intérieur, c'est ce basculement de l'esprit fou vers l'esprit juste, d'une idée de séparation vers une idée d'inclusion et d'être toujours inclus au sein de l'amour divin, faire toujours partie de cette famille. De ne jamais avoir été exclu. C'est ça le vrai miracle. Et ce qui provoque ce sentiment de guérison, que j'ai guéri une partie de mon esprit qui était en douleur. Et rien ne peut remplacer ça. Même gagner le loto ne peut pas remplacer ça. Vraiment. Une définition que nous donnons, qui existe dans le cours pour le miracle, c'est que le miracle, pour le dire texto, le miracle est une correction. Il regarde simplement la dévastation, la difficulté, et ce qui veut dire aussi mes pensées difficiles, mes pensées de haine, de chagrin, de colère, de tristesse, de désarroi, de culpabilité. Il regarde la dévastation de mon esprit et autour de moi et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. C'est tout. Parce que l'amour est toujours réel, le ciel n'a jamais été brisé, n'importe les images que la vie autour de moi présente, Dieu, son royaume, le ciel, pour utiliser le langage du cours, pour utiliser un langage plus générique, la perfection, l'amour divin, n'a jamais été brisé, c'est un être parfait et entier, et il existe toujours, et c'est notre foyer au sein duquel nous sommes toujours inclus. Donc voilà, deux esprits complètement différents, et un point de départ entièrement différent. Donc maintenant, la méthode de guérison du cours, une fois que nous avons compris la structure de l'esprit, la dynamique qui déroule ou qui anime chaque esprit, le processus de guérison est simplement ce processus de travailler avec notre décideur pour le faire basculer d'un côté vers l'autre. Pour regarder sa façon de choisir constamment l'esprit faux, de prendre conscience de ça, de se poser la question s'il veut continuer à faire ça. Et ce processus naturellement le guide vers l'esprit juste. Parce que personne n'est vraiment masochistique au, masochiste au point de continuer à se faire mal quand il se rend compte qu'il se fait mal. Nous continuons à nous faire mal parce que nous ne savons pas que nous sommes en train de nous faire mal. Donc, le cours nous apprend sur cette faculté d'esprit que nous avons en recul, qui commence à regarder ce que nous sommes en train de faire chaque fois que nous jugeons quelqu'un. Par exemple, quand nous jugeons une autre personne, parce que nous sommes une unité, l'autre personne fait partie de moi-même, nous faisons partie d'un ensemble. Un jugement, c'est comme une attaque, c'est une façon de dire, toi, tu ne fais pas partie de la grande famille de Dieu. Moi, je fais partie, peut-être, mais toi, tu ne fais certainement pas partie. Tu es exclu parce que tu es bête, parce que à cause de ce que tu as fait. Tu ne mérites pas l'inclusion. Mais parce que l'autre fait partie de moi-même, il est une projection de moi-même, je ne peux pas m'exclure de mon propre jugement sur l'autre. Je m'attaque avec ma propre attaque sur lui-même. Quand je vois que ce n'est pas simplement l'autre que j'attaque qui est un frère, mais un vrai frère dans tous les sens du terme, mais c'est aussi une partie de moi-même que je suis en train d'attaquer et ça me fait mal de juger l'autre. Quand j'apprends ça, quand je le ressens, que je ne me sens pas bien après que j'ai attaqué, j'ai l'impression des fois de me sentir d'être victorieux ou justifié quand j'ai attaqué quelqu'un, ce n'est pas la paix et l'amour de Dieu que je ressens. C'est un sentiment d'avoir écarté, de ce sentiment d'être fort, justifié, victorieux sur un autre. C'est le sentiment d'avoir écarté ma propre culpabilité et mon propre mal-être, de l'avoir placé sur lui pour un peu, pour dire j'ai trouvé le méchant, j'ai trouvé le bourreau dans la vie, c'est lui, c'est pas moi. Et de me sentir presque comme le justicier, j'ai fait mon travail, bon boulot. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le sentiment que nous cherchons. Donc, nous mettons en cause, nous mettons en question l'activité de notre esprit. Toutes ces leçons, je ne vous ai même pas parlé des trois livres du cours. Il y a trois parties du cours. Ce livre est divisé en trois parties. Un texte d'à peu près 700 pages, un livre d'exercice de 365 leçons, et puis un manuel pour les enseignants. À savoir qu'un enseignant d'un cours en miracle est uniquement personne qui a décidé de le travailler sérieusement. C'est tout. Trois parties du livre, dont cette partie, le livre d'exercice, 365 leçons, dont l'objectif est de nous présenter notre esprit et de réveiller une faculté de notre esprit d'observation de l'activité de notre esprit. Nous voulons devenir des experts pour comprendre l'activité de notre esprit. Nous voulons savoir ce qui se passe, pour savoir quel système de pensée ou quel système de pensée j'adhère. C'est l'un ou l'autre, il n'y en a que deux. Et maintenant, ces exercices et ce livre nous font travailler beaucoup sur nos relations, parce que nous voyons le plus rapidement et peut-être de la façon la plus animée, quel système on a choisi dans nos relations avec les autres. L'objectif, c'est de savoir si j'ai placé mon esprit du côté de l'ego, de l'individualité, ou du côté de la réalité, de l'unité. Souvent, j'ai du mal à voir ça par rapport à moi-même. J'estime que je suis quasiment toujours dans l'amour, n'est-ce pas? C'est relativement courant de penser qu'il n'y a pas trop de soucis chez moi. Il n'y a rien de plus facile, par contre, de penser qu'il y a un problème chez un autre. Ça, c'est extrêmement facile. Donc, et ça, c'est à cause de ce processus de projection. Le cours nous aide beaucoup avec ces concepts qui viennent directement de la psychologie classique, ce qui sont le déni et la projection. Le premier défense de l'ego, le système, la partie de nous qui aime l'idée d'être un individu, il veut rester un individu, il sait qu'à l'autre côté, il y a l'unité parfaite. Il ne veut pas qu'on y retourne. Il sait que dès qu'on met un pied là-bas, c'est presque foutu pour lui. Il veut continuer à rester un individu, à faire la fête. Sauf qu'il ne nous a pas dit que le petit écriture en bas du contrat, c'est que faire la fête pour lui, ça veut dire nous garder vraiment quasiment à l'enfer, tout le temps. Donc, sa première défense pour nous empêcher d'aller là-bas, c'est le déni. C'est de dire, je ne ressens pas le problème chez moi, je ne ressens pas la culpabilité, je ne vois pas ce que tu veux dire vraiment. Non, j'ai l'impression que tout va bien chez moi, sincèrement. Et ça, c'est normal, hein, c'est pas un défaut, mais c'est le déni. Si nous ne connaissions pas la plus grande paix et tranquillité de ces grands maîtres, de ces grands sages, à savoir que nous sommes directs, nous faisons partie directement avec cet magnifique esprit, ce qui est le ciel, nous pouvons dire que nous avons, nous sommes pour une certaine partie de notre esprit dans l'esprit faux. Si nous sommes dans l'esprit faux, ça ne peut pas être que joyeux. Mais, voilà, nous ne le ressentons pas tous, pas encore. Nous n'avons pas encore vraiment un bon baromètre pour juger notre niveau. Esprit juste, esprit faux. Mais par contre, à cause de sa deuxième défense, première défense, le déni, quel problème. Deuxième défense, de toute façon, s'il y a un problème chez moi, c'est pas chez moi, c'est chez l'autre. Et c'est là où la projection entre en jeu. Et j'ai dit, ben non, c'est pas moi, tu l'as vu lui, c'était pas moi, c'était mon frère, c'était pas moi, c'était mon patron, c'est pas moi, c'est toujours l'autre. Et il n'y a rien de plus facile que de penser qu'il y a quelqu'un autour de nous qui est le problème et qui nous enquiquine. Si seulement, ça c'est les mots fameux, si seulement cette personne-là peut commencer à vraiment à aller mieux, à me traiter comme il faut, avec plus de respect, plus de gentillesse, à reconnaître ma vraie valeur, si seulement cette personne peut être un petit peu moins bête, un petit peu plus généreux, tout vous ira mieux vraiment dans le monde. Franchement, mon expérience de la vie serait nettement meilleure si cette personne-là, si seulement cette personne-là peut s'organiser un peu mieux. Ça, c'est une projection. C'est parce que si j'étais branché esprit juste, je n'aurais pas besoin que l'autre personne change. L'autre personne, il est comme il est, parce que forcément, il est dans l'esprit faux, décideur, il a basculé plutôt à gauche vers l'esprit faux. Ils se sont plombés par cette mal-être de la séparation, dynamique de tout l'esprit faux, péché, culpabilité, peur, projection, il n'est pas capable, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, on comprend pourquoi il est comme ça, mais moi, comment suis-je? Si je suis gêné par lui, c'est une projection. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Si je suis gêné par une autre personne, ça veut simplement dire que je suis en train de dire, c'est cette personne-là qui m'empêche d'aller vers mon esprit juste. C'est cette personne-là qui m'empêche d'aller trouver l'amour qui est présent dans mon propre esprit juste à côté. Or, une telle chose est impossible. Personne ne peut m'empêcher de faire ce geste-là, d'aller vers mon esprit juste et trouver cette perfection dans mon propre esprit. Personne ne peut m'empêcher de le faire si je décide de le faire. Si j'ai l'impression que quelqu'un m'empêche de le faire, c'est parce que je souhaite que cette personne soit la raison pour laquelle je n'arrive pas à le faire, parce que je n'ai pas envie d'y aller. Mais c'est ma responsabilité. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais je ne veux pas avoir cette responsabilité. Je ne veux pas savoir que je continue à dire non à l'amour. Je ne veux pas l'admettre, je ne veux pas le savoir. Je préfère nettement dire, je ne peux pas être bien et heureux parce que tu as vu mon mari, tu as vu ma femme, tu as vu mes enfants, tu as vu ce qui se passe dans ma vie. Comment tu veux que ? C'est un signe sûr que moi, j'ai peur de retourner et admettre la présence de l'amour dans ma vie. Personne ne peut m'empêcher. Je ne dis pas que c'est facile.
Eh bien, s'il faut faire attention, pas tomber dans la culpabilité aussi. Parce que là, pas retourner la projection, le retrait de projection,
exactement.
Ouais. On va en psychanalyse un petit peu.
Exactement. Ouais. Ce qui est rester, on a l'impression de faire le bon chemin, je prends responsabilité, mais en fait, je prends responsabilité, je reste toujours dans l'esprit faux qui adore culpabiliser. Mais maintenant, au lieu de culpabiliser les autres, il se culpabilise. L'ego est toujours super heureux. Non, le truc que l'ego déteste, c'est quand on prend la culpabilité et le jugement légèrement. Là, il n'aime pas. Là, il commence à dire, ah, là, ça ne va pas du tout. Là, c'est mes armes fatales, les plus pures, les plus puissantes. Tu es en train de dire que quoi, la culpabilité du jugement, c'est comme les petits jeux d'enfants. Ça n'a aucune conséquence ou signification. Notre prof, Kenneth, son arme fatale à lui était une plume. Oh, 10 sur 10. Il a bien retenu Marie quand même. Tu te souviens? Maintenant, une plume. Qu'est-ce qu'on fait avec une plume? On chatouille. On chatouille les gens. Donc on avait appelé ça le plume du chatouilleur. Un truc comme ça, le plume du chatouilleur. Parce qu'en anglais, c'est le tickle feather, mais on n'a pas ça en français. Donc on a dû trouver. Et la plume, c'est simplement le symbole de prendre absolument tout légèrement. Absolument tout. Si jamais nous sommes en train de prendre quelque chose trop au sérieux, nous sommes en train de faire une histoire de ce qui n'est pas une histoire, parce que l'amour est là. Rien ne peut nous empêcher de juste être dans un moment de calme, revenir en arrière et à l'intérieur, et de savoir que tout va bien, tout est là. N'importe ce qui se passe à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas facile parce que nous sommes tellement, tellement identifiés avec la colère, avec le jugement, avec l'irritation, nous sommes vraiment identifiés avec ce mal-être. Au fond de nous, en fait, nous avons ce mal-être, c'est notre individualité. L'individualité n'est pas une partie de plaisir. L'unité est une partie de plaisir. L'unité est merveilleuse. L'individualité n'est pas joyeuse. N'est pas joyeuse. Mais il ne faut pas sous-estimer notre attachement à cette individualité. Mais il ne faut pas se culpabiliser pour cet attachement, cette insistance sur notre individualité. Surtout, surtout pas. Il faut le comprendre doucement, tranquillement. Nous avons peur de relâcher notre individualité. Nous avons peur de retourner vers l'amour qui est une vraie présence. Ce n'est pas une blague maintenant. J'ai l'impression, quand j'entends beaucoup de spiritualité, qu'ils parlent de l'amour parce que c'est les gentils mots, c'est les mots qu'on doit dire, mais ce n'est pas une vraie réalité. Parce que quand je les entends parler, il y a amour, mais il y a aussi non-amour et jugement. Presque, oui, peut-être l'amour humain, mais l'amour humain, il n'y a rien de plus imparfait. Dans le vrai amour, il n'y a pas la place pour le jugement ou l'exclusion. Et c'est une chose vivante et réelle. Ce n'est pas humain. Et c'est une réalité. Et il n'y a rien qui nous fait plus peur. Ouais. Parce qu'à l'intérieur de ce souvenir d'amour, le monde tel que nous le connaissons disparaît dans notre perception. Nous sommes toujours ici, je veux dire. Mais dans son importance, nous savons juste pour un instant que ce monde n'est pas réel. Parce que l'amour l'est. Cet amour. Et si cet amour est parfait, si cet amour est réel, ce monde ne peut pas être réel parce que nous savons que ce monde est imparfait. Et dans un clin d'œil comme ça, juste un instant, nous prenons absolument tout dans cette vie au deuxième, troisième, quatrième degré. Ça ne peut pas être aussi important que ce que nous avons vu pendant cet instant d'amour. C'est l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que ça nous fait peur. C'est tellement impressionnant pour les vraies raisons, pour les justes raisons. Ce n'est pas anodin de dire que ce monde n'est rien. Tout autour de nous dit que ce monde est vraiment une grande chose, et une grande affaire. Les infos ce soir, les infos à la radio, quand vous quittez ici, ou vous croisez quelqu'un dans la rue, il y a une grande affaire, il y a une grande histoire quelque part. Tout ici, dans cette vie-ci, veut nous convaincre qu'il y a vraiment une réalité ici, une réalité importante et une réalité lourde. Voilà. Dont tu fais partie. Il y a quelque chose en moi qui dit oui. D'un côté, je pleure, d'accord, la tragédie. De l'autre côté, mon ego dit oui, j'ai l'individualité, c'est réel, il l'a dit. J'adore les gens qui m'aident à comprendre que l'individualité est réelle. J'adore encore plus les gens qui m'aident à comprendre que l'individualité est réelle et on peut être heureux en tant qu'individu. Je ne suis pas heureux parce que je n'ai pas trouvé le bon partenaire. Mais le jour que j'ai trouvé le bon partenaire, j'aurai gagné l'individualité et vraiment le bonheur ici. C'est la promesse de l'ego, c'est qu'on peut faire marcher l'individualité et la séparation. Il nous dit, tu n'as pas besoin de te retourner vers cet amour parfait à l'intérieur de toi. J'ai d'autres projets pour toi. J'ai des bons projets, des belles projets, des beaux projets. Tu n'as qu'à m'écouter et ce soir, on va sortir, on va faire la fête, tu vas voir. Tout sera réglé ou tu vas voir l'année prochaine, tu vas avoir cette promotion. J'ai un bel avenir pour toi. J'ai vraiment des beaux projets pour toi. Tu seras heureux dans cette vie ici. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des buts et des objectifs dans cette vie ici. Il faut se soigner, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas du tout négliger ou ignorer des choses de la vie ici. Mais il ne faut pas continuer à penser que vos questions seront résolues une fois que ces choses se mettent en place. Voilà. Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est juste un autre scénario, une autre scène, d'autres circonstances dans cette vie ici. Il y a de très bonnes chances aussi que certains problèmes vont vous suivre dans ces nouvelles circonstances. Donc, en conclusion, je ne sais pas quelle heure il peut être maintenant, 4h10 par là ?
4h25.
Non ! Oh là là ! C'est parfait, d'accord. Je vais prendre mon temps, 5 minutes pour faire une conclusion. Oh là là ! Donc, en conclusion, le cours en miracle est une philosophie spirituelle complète qui nous donne une mythologie pour comprendre la nature de la vie ici, d'où ça vient, et ce qu'est la vie réelle, qui est une autre dimension. Il parle de tout ceci dans un langage tellement prenant, tellement imbibé de sens et de vérité, de sagesse et d'autorité, sans être autoritaire. Il n'est pas autoritaire, il ne nous prend pas de haut. Il nous donne ce tableau pour comprendre la nature de la réalité. Il nous inspire, il nous motive d'y aller. Il nous donne une méthode et un moyen pour y aller. Il nous dit que ce n'est pas forcément facile, mais on peut y arriver. Parce que c'est simplement aller vers chez nous. Il n'y a rien de plus naturel que de retourner chez nous. C'est un processus tout au long duquel il va nous accompagner, cette présence intérieure. Il nous guide vers l'intérieur pour trouver notre propre enseignant, notre propre guide intérieur qui est dans notre esprit juste. Dans cette mesure, nous ressentons effectivement une sorte d'accompagnement. Au fur et à mesure que nous faisons ces leçons, et nous feuilletons ces pages, nous imbibons avec cette idée qu'il y a autre chose là, une vraie présence. Ce n'est pas anodin. Il nous parle de la guérison de l'esprit qui se fait par le biais de ce que le cours appelle le pardon authentique. qui est le sujet de notre prochaine conférence ou prochaine rencontre le 15 mars, pendant laquelle nous allons parler de la guérison. Qu'est-ce que c'est la guérison? Qu'est-ce que la guérison? Parce que la guérison selon le cours miracle est très particulière. Et entre-temps, vous pouvez aussi voir sur le site pour les ressources que nous avons mis là. Il y a toutes sortes de conférences d'introduction, aussi une conférence sur la série d'ateliers sur le pardon authentique. Donc sur ça, je pense que je vais vous remercier d'être venu.